France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse du lundi au vendredi jusqu'à 11h. Et ce matin, comment mieux aborder certains sujets qui inquiètent les ados, les aider à mieux comprendre certains problèmes, les dédramatiser, désamorcer les choses avant qu'elles ne posent un problème de santé mentale, avec quelques questions ce matin qui peuvent les interroger. Qu'est-ce que la normalité? Pourquoi ai-je l'impression de ne pas être compris? Pourquoi ne suis-je pas populaire, notamment sur les réseaux sociaux? Pourquoi mes émotions font-elles des montagnes russes? Pourquoi suis-je autant obsédé par le regard des autres? Et puis nous essaierons de dégager quelques clés essentielles pour mieux communiquer avec ces ados. Et vous, comment abordez-vous certains sujets difficiles avec eux, que vous soyez parents, grands-parents, enseignants, éducateurs? Standard et WhatsApp ouvert au 01 45 24 7000 et sur l'appli Radio France en usant du bouton réagir. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Grand Bien vous fasse, Ali Rebbi.
Bonjour Loïc Robu.
Bonjour.
Vous êtes psychologue clinicien à Montpellier, spécialisé dans les troubles du comportement. Vous êtes le créateur du contenu militant psy sur Instagram avec votre compagne Mathilde Bessé, également psy. Et vous publiez ensemble chez Marabout. Est-ce que c'est normal? Bonjour Victoria Jacob.
Bonjour Ali.
Vous êtes rédactrice en chef de l'hebdo numérique Phosphore, destinée aux adolescents, mais vous êtes également directrice éditoriale ado chez Bayard Jeunesse et Milan. Et ça regroupe quoi comme magazine?
Alors, Okapi, Julie, SoFoot Club, Yam Yam, Phosphore et I Love English.
Beaucoup de boulot donc, Victoria Jacob. Alors ce matin, nous allons essayer de partager quelques clés autour de certains sujets qui inquiètent, stressent, interrogent les ados, en expliquant et en dédramatisant. Alors, au cœur de notre conversation ce matin, la question de la normalité. C'est une question obsédante hein, pour de nombreux ados, Loïc Robu. Et d'abord, c'est quoi être normal?
Non mais complètement, et puis ça peut même être un peu bizarre que des psychologues arrivent et venir parler de normalité, ouais. Parce que justement au contraire, on devrait valoriser plutôt la singularité et accepter qu'on ne peut pas être tous les mêmes. Et cette question elle reste quand même centrale parce que c'est important de savoir si on est on se sent normal ou non, et là bah, il va y avoir plusieurs critères, mais des critères qui vont être surtout très personnels en fait, de savoir est-ce que là, les comportements que j'ai, est-ce qu'ils me conviennent ou non, et on va pouvoir petit à petit jauger, savoir si nos comportements le sont ou non. Donc si on commence à avoir des difficultés qui commencent à devenir vraiment intenses, qui prennent de la place, qui nous empêchent de vivre la vie qu'on veut mener, qui nous impactent sur notre qualité de vie, là on va peut-être se poser la question de est-ce que mon comportement il est toujours aussi normal?
Pourquoi est-ce que cette question de la normalité obsède autant les ados?
À l'adolescence, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent. Notre corps change, notre cerveau évolue, on a fait face à énormément de changements aussi tout court dans notre vie. Et savoir si on est normal ou non, ça permet aussi de pouvoir s'intégrer dans des groupes par lesquels on veut interagir. Et puis aussi pour savoir si on se sent bien ou non, parce qu'on peut traverser pas mal de périodes où on ne se sent pas très bien quand ça change.
Victoria Jacob, la question de la normalité, c'est une question centrale dans l'interrogation de vos lecteurs, de Julie, de Phosphore, de Capi.
Ouais, un peu sur toutes les tranches d'âge, de façon différente. Sur le magazine Julie, ça touche beaucoup au corps, parce que c'est un magazine qui se destine aux filles de 10 à 15 ans, mais le cœur, c'est vraiment 12 ans, donc c'est vraiment la puberté, la construction du corps, etc. Et donc là, c'est une vraie question. Est-ce qu'on est normal? Est-ce que ce qui se passe est normal? Et puis après, sur d'autres tranches d'âge, c'est une normalité. Est-ce que je coche les cases? Est-ce que je rentre dans le moule? Est-ce que mes passions sont bizarres? Est-ce que ce que j'ai envie de faire plus tard va rentrer dans la norme? Est-ce que je vais pouvoir trouver déjà ce que je vais faire plus tard? Donc en fait, la question de la normalité, c'est une espèce de fil conducteur qui suit tous les courriers qu'on reçoit de tous nos lecteurs.
Loïc Robu.
Oui, non, je suis complètement d'accord. C'est toutes ces questions-là qui vont pouvoir être posées et se poser quand, justement, on veut faire face au monde qui s'ouvre à nous.
La crainte de ne pas être normal va de pair avec une crainte d'être différent. Mmh. Et cette crainte est normale.
Totalement, oui. Oui.
Mais de quoi a-t-on peur exactement quand on craint d'être différent? On craint quoi? Une sorte de mort sociale? Ouais. Alors, c'est ça qui taraude certains adolescents?
Être différent, ne pas rentrer dans le moule, entre guillemets, c'est le risque d'être rejeté, par exemple, par nos groupes de pairs, par nos groupes d'appartenance. Donc ça peut être vraiment quelque chose de très compliqué. Donc c'est sous-tendu par l'émotion de la honte. La honte, elle cherche à ça, elle cherche à nous aider à adapter nos comportements par rapport aux gens qui sont autour de nous. Là, par exemple, si je sais pas, je me mettais à crier, vous allez me regarder avec des grands yeux, vous allez, mais qu'est-ce qu'il fait là, ça va pas, et donc je vais réadapter mon comportement. Et donc c'est comme ça que le comportement se réadapte. Mais à des moments, il peut devenir tellement préoccupant, cette peur peut devenir tellement préoccupante que on va commencer à éviter certaines choses, ne plus se confronter à d'autres, et c'est là où en fait la honte va prendre une trop grande place et va générer de la détresse.
Si la honte ou l'anxiété prennent le pouvoir, il va falloir se faire aider.
Oui, dans l'idéal, oui.
Victoria Jacob.
Ben, c'est aussi que je pense que à l'adolescence, le groupe, la bande de copains devient un peu comme une deuxième famille, et on veut surtout pas être mis à l'écart de cette famille, et donc il y a un truc de rentrer dans les codes à tout prix. Ça peut être sur le comportement, c'est aussi sur l'habillement. Enfin, moi, je les vois devant les lycées, ils sont tous habillés pareil. Et parce qu'il y a cette envie vraiment et cette peur surtout d'être mis à l'écart si tout d'un coup on arrive avec une fringue un peu dingue, mais qu'est-ce qui lui prend? Et donc, on coche plus les cases.
Pourquoi le groupe de pairs, le groupe d'amis, à cet âge-là, devient plus important que la relation qu'on a tissée quand on était enfant, voire pré-ado, avec ses parents, au grand désarroi des parents qui vivent mal le fait de voir cet ado, ce pré-ado s'éloigner de lui.
Il y a un besoin d'autonomie quand on commence à grandir. On a
qui est normal.
Aussi,
hein.
Qui est complètement normal. Donc on a besoin aussi de s'identifier à d'autres personnes. Et puis on s'affirme aussi dans nos valeurs, dans nos goûts, dans ce qui est important pour nous. Et puis quand même, on passe beaucoup de temps dans notre scolarité et dans toutes ces choses-là. Donc en fait, on voit plus souvent nos amis que nos parents. Et il peut y avoir aussi des écarts générationnels qui font que c'est plus simple de parler à d'autres personnes qu'à ses parents. Et ça, je pense que c'est même important et sain aussi qu'il y ait ces choses qui arrivent.
Victoria Jacob.
Oui, on a cette impression que les parents, à un moment, ils ne comprennent plus. C'est des boomers. Donc, à mon sens, on a ce sentiment qu'il n'y a que nos pères qui peuvent comprendre.
Paix ailleurs.
Exactement. Qui peuvent comprendre ce qu'on vit, ce qu'on ressent, qui ont les mêmes problématiques, qui ont le même vocabulaire. Aussi, parce que discuter avec ses parents, c'est pas toujours facile, parce qu'on n'a pas toujours les mêmes codes.
Pourquoi c'est pas si facile, au fond, Louis Crobu?
C'est une bonne question. Ça va dépendre de beaucoup de choses et de beaucoup de familles. Ça va dépendre du lien qu'on a avec nos enfants, ça va dépendre de... est-ce qu'on arrive à suivre, effectivement, ou pas? Ça va dépendre aussi de notre style parental, par exemple, aussi. Donc, il y a plein de choses qui peuvent influencer ça.
Il faut se résigner, accepter le fait que son ado n'ait pas envie de nous parler, il n'a pas envie d'aborder certains sujets. Il faut l'accepter, il faut se résigner.
Les données, elles sont assez claires là-dessus. En fait, il faut réussir à trouver cet équilibre entre... pas être trop dans le contrôle, parce que sinon, en fait, ça va donner encore plus envie de faire des choses qui vont pas aller, entre guillemets, et s'intéresser quand même. Parce que, pareil, si on s'intéresse pas à nos enfants, si on n'est pas proche de nos enfants, pareil, c'est le risque aussi qu'il puisse y avoir des dérives chez eux. Alors, on s'entend, hein, ça peut être plein de choses qui peuvent arriver, mais en tout cas, l'idée, c'est de trouver cet équilibre entre les deux, entre lâcher de la liberté et entre rester là en s'intéressant vraiment à la vie de nos enfants.
Victoria Jacob.
Ouais, et du point de vue des ados, moi, quand je les interroge, ils ont besoin de sentir que la porte est ouverte.
Oui.
C'est-à-dire qu'ils y vont... ils ne vont pas venir tout raconter, ils n'ont pas envie de livrer toute leur vie à leurs parents, mais ils veulent avoir cette assurance que s'il y a un problème, ils sont là, et s'ils ont besoin d'aller discuter, la porte reste ouverte.
Tiens, j'aimerais qu'on s'attarde sur les relations amicales, une question que vous abordez dans votre livre, Loïc Crobu, est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est normal de se sentir seul alors qu'on est entouré, c'est une question que beaucoup d'ados peuvent se poser. C'est un sentiment, ce sentiment de solitude, pas forcément agréable à vivre. Il y a une étude publiée par l'Académie de Versailles, je la cite, « La fonction de l'amitié est essentielle pour les jeunes à tout âge, car elle apporte une sécurité affective dont ils ont besoin pour se construire. À l'adolescence, l'amitié a un impact sur l'estime de soi, permet de mieux se connaître. »
Eh bien, complètement. Hein, ça peut être... assez désagréable de ressentir ce sentiment-là parce que le sentiment de d'être aimé, d'être de compter pour les autres, il n'est pas forcément dépendant du nombre de personnes avec qui on interagit, mais plutôt de la qualité de la relation qu'on va pouvoir tisser avec eux. Donc, est-ce que j'arrive à créer une relation où il y a de l'intimité, où il y a où on peut se livrer, où on peut se montrer vulnérable? Et parfois, quand on n'arrive pas à faire ce genre de choses, quand on peut être inquiet de certaines choses, on va avoir du mal à rentrer en lien avec ces relations et ressentir du coup petit à petit ce sentiment désagréable.
Rappelons que la solitude ou le sentiment de solitude, ce n'est pas forcément lié au nombre de personnes qui nous entourent. Ce sentiment peut être lié à la qualité des relations, au contexte social, familial, à son propre vécu.
Complètement. Il y a énormément de choses qui viennent venir impacter ça. Voilà, comme vous, toutes les choses que vous avez citées sont très bonnes. Et c'est là où il va falloir aller chercher qu'est-ce qui me bloque et qu'est-ce qui me fait ressentir ça et qu'est-ce que je peux améliorer dans le quotidien. Donc si c'est des difficultés à rentrer en interaction, bah, il va falloir travailler sur ces choses-là. Si c'est des choses qu'on ne maîtrise pas, ça va être peut-être aussi accepté, hein, qu'on n'est pas maître aussi de tout ce qui nous traverse.
Victoria Jacob.
Il y a un point qu'on n'a pas encore abordé, mais qui, et c'est étonnant, c'est à cause des réseaux sociaux aussi. C'est qu'en fait, on a l'impression de faire groupe, mais on est quand même tout seul derrière son téléphone. Et je pense que dans cette solitude, il y a un peu ça aussi. C'est-à-dire qu'on a cette impression d'être très suivi, d'être très nombreux, mais on se retrouve quand même seul face à son téléphone et à ses réactions, à ce qu'on voit et ce qu'on reçoit via son feed de réseaux sociaux.
Et on peut ressentir ce sentiment de solitude quand on est ado, parce qu'on a un manque de connexion authentique, on ne partage pas forcément les mêmes valeurs d'un groupe, mais on ne veut pas en être rejeté, ou alors on se sent jugé par ce groupe. Et puis, c'est également le cas si on privilégie la quantité de relations au détriment de la qualité. Et là, le sentiment de solitude peut naître.
Peut même s'accroître, oui, effectivement. Vous parliez des réseaux sociaux, c'est une bonne idée, parce qu'effectivement, il va falloir créer du lien, vraiment du lien et une interaction pour que ce lien se fasse et que ce sentiment de solitude puisse reculer. Et effectivement, tous ces éléments-là peuvent être travaillés.
Et on peut se sentir seul à cause de facteurs sociaux, familiaux, et puis également parce qu'on idéalise les relations, et c'est une idéalisation souvent amplifiée par les réseaux sociaux.
Oui, mais si on refait le lien avec la première question, il y a cette idée de il faut se conformer pour pouvoir être en lien, et du coup, parfois se conformer, c'est renier des choses qui sont importantes pour nous, et on va avoir du mal à aller trouver nos valeurs, faire l'impasse sur d'autres, et ça va être un jeu vraiment d'équilibriste pour essayer de trouver des solutions pour s'accepter soi. Ce qui est important pour quand on veut rentrer en lien et être accepté par les autres. Et ça demande aussi de la vulnérabilité, de pouvoir dire, ben en fait, là, je crois que je ne suis pas à l'aise avec ça, ou ça, ce n'est pas moi. Est-ce qu'on va me rejeter? Est-ce qu'on va toujours m'aimer si je fais ça?
Et nous accueillons Marie. Bonjour Marie.
Bonjour.
Vous appelez des Vosges. Bienvenue.
Oui,
bienvenue.
Merci.
Quelle est votre question, votre témoignage?
Alors moi, j'ai une jeune adolescente qui va bien. Elle va sur ses 13 ans. Mm-hmm. Donc c'est le début de l'adolescence. Et je voulais savoir comment faire pour continuer ce va bien.
Ah, que voilà, que vous souhaitez un statu quo, hein, que ça n'empire pas, voilà, c'est ça?
Bah oui, en fait, l'accompagner au mieux, en fait, dans tout ce qu'elle vit.
Est-ce qu'elle l'a fait, entre guillemets, et notre psy nous expliquera ce que c'est exactement, sa crise d'adolescence?
Pas du tout.
Alors...
Ça, c'est un mythe sur l'adolescence. Il n'y en a pas toujours des crises d'adolescence.
Mais je sais que c'est un mythe, justement.
Il n'y a pas toujours des crises d'adolescence parce que, en fait, il va y avoir, quoi qu'il arrive, un besoin d'autonomie et une prise de distance et de liberté par rapport à nos parents. Et ça, c'est logique et c'est dans le fonctionnement et c'est naturel. Mais ça ne va pas forcément se faire dans la violence. Hein, justement, bah, ça peut être une des étapes pour pouvoir continuer cette lancée et cette belle relation que vous avez avec votre enfant. Ça va être de pouvoir réussir à garder cette chaleur, garder cette intimité, garder ce lien, parce que je pense que c'est vraiment ça qui va être important, tout en acceptant de lâcher un peu du cadre, mais en gardant aussi un peu ce cadre, parce que nos adolescents, ils sont encore des enfants.
Vous communiquez beaucoup avec votre fille, Marie. Comment se passe la communication? Est-ce que vous abordez tout type de sujet avec elle? Comment ça se passe?
Oui, tout à fait. Après, moi, j'y vais avec ces questions aussi. Je ne vais pas aborder des sujets, par exemple, sur la sexualité, s'il n'y a pas de questions à ce propos-là. elle me partage beaucoup de ce que ses amis vivent aussi. Et elle me dit, je suis tellement contente que tu m'aies si bien éduquée que je passe pas comme mes copines.
Victoria Jacob.
Bah, c'est exactement la façon dont nous, on conçoit tous nos magazines. On part toujours des questions des ados. Parce qu'on ne veut jamais brusquer en fait, les questions et apporter des sujets qui n'auraient pas été soulevés par eux. Donc on part toujours de leurs témoignages, de leurs envies, de leurs questionnements, de leurs grandes interrogations. Mais on n'essaie jamais de faire descendre un sujet comme ça du ciel, et nos têtes d'adultes, parce que souvent on vise à côté.
Merci beaucoup Marie de nous avoir appelé au 01 45 24 7000. Dans quelques instants, on va accueillir Hélène qui nous a appelé également. Nous verrons comment aborder le sujet du complexe physique quand votre ado focalise et est très gêné par un détail de son corps. On évoquera également la question des montagnes russes émotionnelles. Qu'est-ce qui est normal et ce qui ne l'est pas, standard. Et WhatsApp ouvert donc au 01 45 24 7000. On se retrouve juste après avoir écouté l'une de mes chansons préférées, sélectionnée par Valentine Chedebois, Wonderwall, Oasis, sorti il y a 31 ans exactement, 10h21 sur France Inter. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.
Inter.
Il y a des parents d'ados dans la salle ? L'alcool, la drogue, ça va ? Non, vous, votre consommation, à vous, je parle, hein.
Grand bien vous fasse.
Ça twerk à la maison, vous aussi ? Oui, je m'adresse qu'aux parents d'adolescentes. Parce que, alors, les parents de garçons, franchement, vous, c'est quoi vos problèmes ? Il joue aux jeux vidéo, il a des grands pieds, je vous emmerde.
Allez, Rébéi.
Comment aborder certains sujets qui inquiètent les ados? C'est notre thème ce matin avec le psychologue clinicien Loïc Rebut et la rédactrice en chef de l'hebdo numérique Phosphore. Tiens, Florence Forestier évoquait une différence entre les garçons et les filles. Il y a des différences sur cette question de la normalité, puisque le titre de votre livre, Loïc Rebut, c'est « Est-ce que c'est normal ? » Est-ce que c'est genré ?
Oui, parce que notre société est extrêmement genré et ça ne nous l'a pas échappé aussi, très patriarcal. Et donc oui, il y a énormément de différences entre les adolescents et les adolescentes.
Victoria Jacob.
Ouais, nous, on ne reçoit pas beaucoup de témoignages de garçons, pour le coup. C'est beaucoup les filles, surtout à partir de 14 ans. Sur les tranches d'âge un peu en dessous, on a quand même des questions de garçons sur, pareil, leur corps. C'est ce qui revient le plus souvent, et cette question de normalité.
Bonjour Hélène, bienvenue.
Bonjour.
Bonjour, d'où appelez-vous Hélène ?
De Paris.
Alors, quelle est votre question ?
Bah écoutez, on est en plein dans le sujet avec ma fille.
Quel âge a-t-elle ?
Elle a 12 ans, voilà, un peu précoce. Mais la question en fait qu'elle m'a posée hier soir et qui rebondit tout à fait avec le thème de votre émission, c'est pourquoi je ne suis la préférée de personne.
Pourquoi n'est-elle pas populaire ?
Préférée, c'était vraiment son terme très exact. Populaire, elle l'est à peu près, mais c'était, elle voulait vraiment être préférée.
Loïc Robu.
Bah, il peut y avoir des insécurités, effectivement, à ce moment-là. Il y a plein de choses qui pourraient expliquer ce questionnement, mais parfois, quand on peut avoir des difficultés dans son attachement, on peut se poser des questions de est-ce que je compte vraiment ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est vraiment m'apprécie en tant que comme je suis ? Et dans un groupe, ça peut être difficile de ressentir ça, effectivement.
Mais préférée, Hélène, par qui ? Par ses amis ? Par ses profs ? Sur les réseaux sociaux ?
Je crois effectivement que c'est un peu global, par ses amis, par son entourage. Je pense que c'est global dans sa tête en ce moment. Pour ma part, je lui ai expliqué que c'est comme ça, dans la vie, on n'est pas toujours la préférée, comme elle a eu parfois des gens qu'elle préférait et qu'elle préfère moins aujourd'hui. Donc c'est comme ça, des fois on n'est pas... Et le principal, ce sont d'être aimé plutôt que d'être la préférée.
Et qu'est-ce que ça provoque chez votre fille, ce sentiment de ne pas être la préférée ?
Des crises. Des crises, non, c'est très violent.
Qui s'exprime comment ?
Par la violence, par des choses très difficiles.
Loïc Robu.
Il y aurait plein de choses à aller interroger pour savoir concrètement ce qu'il y a derrière tout ça. Là, ce qu'il faut essayer de repérer, c'est est-ce que ça dure ? Est-ce que c'est très intense ? Est-ce qu'elle en souffre beaucoup ?
Est-ce qu'il y a de la dangerosité pour les autres et pour elle-même ?
Exactement. Et si c'est le cas, passer la porte d'un psychologue, ça peut être intéressant parce que c'est des questions qui peuvent être réglées assez rapidement avec de la normalisation, avec une analyse fonctionnelle. Donc, c'est vraiment essayer de comprendre comment ses comportements agissent avec ses émotions, ses pensées, son environnement et par la suite, pouvoir trouver des solutions concrètes, quoi.
Victoria Jacob.
Ouais, c'est aussi un âge, je pense, où on ressent tout très fort, tout multiplié, et donc on perd un peu cette capacité à relativiser, à se tempérer, à se dire ça va passer, etc. Mais ce qui est normal, c'est vraiment lié à l'âge. Mais il y a cette espèce de prise de recul qu'il faut peut-être les aider à avoir, mais qui n'est pas facile.
Un mot justement, Loïc Robu, et merci beaucoup Hélène de nous avoir appelé sur ces montagnes russes émotionnelles qui prennent possession du corps de nombreux ados, des montagnes russes qui sont liées notamment à la tempête hormonale qui les traverse au moment de la préadolescence, de l'adolescence, bref de la puberté.
Complètement, alors c'est une tempête hormonale, c'est le moment aussi où notre cortex préfrontal, donc c'est la partie avant de notre cerveau, finit de maturer, enfin en tout cas commence à finir de maturer.
Il finit de maturer vers 25 ans.
Oui, c'est ça prend un peu de temps. Mais c'est là où il y a tous ces bouleversements et cette zone, elle contrôle, elle est beaucoup dans la gestion donc des fonctions exécutives. Donc, c'est des fonctions dites supérieures qui permettent la régulation émotionnelle, qui permettent l'inhibition, qui permettent tout un tas de choses qui nous permettent de justement nuancer et mieux adapter, mieux gérer nos émotions, quoi.
Comment les parents peuvent-ils accompagner justement ces montagnes russes émotionnelles ?
Déjà en acceptant que c'est pas contre eux et que c'est pas la faute de leurs ados, c'est vraiment quelque chose, c'est une phase qu'ils ne contrôlent pas malheureusement. Et en fait, le parent, il doit agir comme un guide pour apprendre à réguler justement cette émotion-là, pouvoir lui proposer des solutions, à pouvoir, pourquoi pas, lui faire la révélation de soi, c'est ça qu'on dit. Donc, c'est-à-dire parler de ses propres émotions, nommer les émotions aussi de nos ados qui traversent. Ça demande effectivement d'être à l'aise avec les siennes aussi, et de savoir nommer les siennes. Ça peut être un problème quand on est adulte. Et pour beaucoup d'adultes d'ailleurs. Donc ça va être toutes ces choses-là qui vont permettre ça.
Victoria Jacob.
Ouais, c'est pas facile en tant que parent. Enfin, oui. C'est une tempête chez les ados, mais en tant que parent, c'est aussi difficile de se positionner. Je crois qu'on essaye de se souvenir comment on était, nous, ados, et qu'effectivement, c'était une tempête. Mais c'est dur de trouver la bonne position, de ne pas minimiser, de ne pas comparer, de ne pas dire « alors moi, à ton âge, oui, c'est quand même le truc le pire ».
Et puis, ce n'est pas le moment d'aborder certains sujets.
Exactement, voilà. De trouver à la fois le bon moment, c'est ce que je disais au début, c'est laisser la porte ouverte, qu'ils sachent qu'on est là, mais c'est une posture qui n'est pas toujours évidente quand même.
Tiens, j'aimerais qu'on revienne sur ce sentiment de solitude central chez les adolescents. C'est difficile d'évoquer ce sentiment de solitude, on peut avoir honte. À une époque qui valorise une vie sociale très riche et épanouissante, notamment sur les réseaux sociaux.
Ah oui, ouais. C'est vraiment extrêmement compliqué. Les réseaux sociaux sont un vecteur assez complexe à gérer, à la fois pour eux, pour les parents. Il y a une espèce de coercition à dire on bloque tout, et en même temps, ce n'est pas la solution, parce qu'on sait qu'ils trouvent toujours un moyen pour y arriver. Donc c'est aussi de l'accompagnement, je pense, d'essayer toujours de discuter en fait, ce qu'ils voient, de ce qu'ils suivent, d'essayer de comprendre ce qui les passionne, de regarder avec eux les programmes qu'ils aiment regarder. Alors il y a des fois, c'est un peu dur. Mais il y a quand même
un exemple concret.
Non, je sais pas. Alors moi, j'ai des filles qui regardent beaucoup tout ce qui est Squeezie, etc. Ah. Alors finalement, une fois qu'on se laisse prendre au jeu, c'est assez drôle. Ouais. Et donc nous, on a décidé de le regarder de temps en temps en famille. Alors, c'est pas hyper régulier parce que j'ai d'autres passions dans la vie, mais en tout cas, c'est intéressant de voir ce qui les fait rire, ce qui les anime. Voilà, c'est un partage. En fait, je pense qu'à partir du moment où il y a partage, il y a compréhension des deux côtés. Et l'ado sent que la porte reste ouverte.
Non, mais je suis complètement d'accord avec ce que vous dites. S'intéresser, c'est vraiment hyper important dans la vie de nos enfants. Il faut vraiment continuer, c'est pas parce qu'ils grandissent qu'il faut arrêter de s'intéresser ou de se dire que c'est dépassé ou carrément se dire « oh, ils sont grands, ils gèrent ». En fait, c'est aussi un moment où on va apprendre à certes prendre de l'autonomie, mais aussi à donner un regard différent, à pouvoir cadrer les choses, pouvoir donner notre lecture, et ça va permettre aussi de réguler toutes les choses qui passent. Oui.
En tant que parent ou grand-parent, que faire si on sent ce sentiment de solitude chez son ado, qui ne veut pas en parler, esquive le sujet, alors qu'on sent une véritable souffrance, Loïc Rebu?
Quand on sent que il y a des choses qui commencent à arriver et qui sont de plus en plus fortes, si en plus ça s'accompagne des difficultés type chute de notes, isolement, rejet des amis, sentiment de solitude très fort, là, je pense que c'est le moment de pouvoir peut-être parler d'un accompagnement possible.
Avec un psychologue?
Là, oui.
Ouais, notamment formé aux thérapies comportementales et cognitives. Hein.
Moi, j'aurais tendance à conseiller effectivement des psychologues qui ont eu une formation scientifique et validée.
Pourquoi?
À l'adolescence, même tout court, plus vite on prend en charge une difficulté et mieux elle va se gérer. Et aujourd'hui, il y a des psychothérapies qui ont montré une efficacité, d'autres moins. Et donc c'est pour ça que ça va être hyper important de pouvoir faire ça.
Quoi. Est-ce que vous pouvez rappeler, c'est le point pédago à 10h33 de cette émission, ce que sont exactement les thérapies comportementales et cognitives qu'on aborde régulièrement dans cette émission?
Donc, les thérapies comportementales et cognitives, c'est des 10 TTC. C'est un regroupement de psychothérapies en fait, qui ont montré une efficacité scientifique et qui se basent sur l'étude du comportement humain, donc qui sont valides dans leur conception. Et l'objectif, en fait, ça va être de réaliser ce qu'on appelle une analyse fonctionnelle. Donc c'est ça vraiment le rôle central, mais ça devrait être le rôle central même des psychologues tout court, de pouvoir comprendre comment se passe une difficulté et apprendre à justement venir travailler sur ce qui peut maintenir ou renforcer. Donc on va s'intéresser aux émotions, aux pensées, aux comportements, à l'environnement, c'est hyper important. Et là aussi, pour ce qui concerne les ados, à la relation parent-enfant.
Et nous accueillons Stéphanie. Bonjour Stéphanie.
Bonjour.
Bienvenue. D'où appelez-vous Stéphanie?
De Grenoble.
Alors, vous vous appelez, ça concerne votre fils?
Oui, mon fils de 11 ans qui vient de rentrer en 6e.
Alors, quelles sont les questions que vous posez?
Il a en fait les cheveux longs depuis un petit moment, là. Il avait envie de se laisser pousser les cheveux. Et puis, il en a eu assez et il a parlé de se les couper. Je pense qu'il en a parlé aussi à ses amis. Et l'avis était négatif du côté des amis. Qui lui disent qu'il est très beau comme ça, que ça lui ira pas, que voilà. Et je le vois douter. Si bien qu'on avait pris rendez-vous chez le coiffeur et qu'il a fallu annuler au dernier moment. parce que voilà, je vois que entre son avis à lui et celui des amis, ben finalement, il n'arrive plus à le décider.
Et votre avis?
Et notre avis aussi, mais bon, là, nous, on lui a donné, puis après, voilà, ouais. Finalement, voilà, comme vous dites, on lâche un peu des choses et on le laisse se décider.
Et ça...
Mais la question, c'est comment est-ce que nous, on peut l'aider en lui disant, bah oui, les amis, ça compte, mm-hmm. effectivement, c'est l'adolescence et ça compte de plus en plus, mais toi aussi, ce que tu penses vis-à-vis de toi, c'est important. Mm-hmm. Voilà, et là, on est un peu coincé.
Loïc Rebu.
Ouais, complètement. Et ça rebondit sur une chose qu'on a dit tout à l'heure, c'est que c'est difficile de ressentir de la détresse chez nos enfants. Et c'est aussi une période où il va falloir commencer à accepter qu'ils vont traverser des choses difficiles.
Sur la question des cheveux, ça peut paraître futile, mais c'est pas anodin.
Non, c'est pas anodin.
Pour son garçon de 11 ans, c'est une question centrale, importante. C'est pas anodin, on peut en sourire, mais non,
c'est vraiment pas anodin.
C'est essentiel pour lui.
C'est pas anodin, et d'ailleurs, c'est important que vous souligniez ça, c'est qu'il n'y a rien d'anodin, en fait. Quand il y a une détresse, quand il y a quelque chose de difficile, même si ça nous paraît pour nous, parents, futile, pour nos enfants, ça peut être vraiment quelque chose d'impactant, et donc je pense que c'est très important de le prendre au sérieux. Donc là, ben, moi, la solution qu'on pourrait trouver là, ça va être, en fait, c'est ce que vous avez fait, ça va être de parler avec lui, de lui exposer toutes les solutions, lui exposer tous les choix, et il va faire son choix petit à petit, mais il va peut-être rester dans cette phase de détresse. Alors si ça reste trop et que ça devient très envahissant, là on va pouvoir peut-être l'aider encore un peu plus, mais déjà le laisser dans cette phase un peu de détresse, de choix, de réflexion, c'est bien, ça, il forge aussi son identité.
Victoria Jacob.
Ouais, je pense que dit Loïc est important, c'est qu'il faut pas minimiser et qu'effectivement quelque chose qui nous peut nous paraître anodin, un blouson, des cheveux ou une note ou n'importe, peut prendre des proportions énormes. Et en fait, je pense que c'est là qu'on gagne la confiance des ados, c'est en comprenant en fait la, et je pense que cette maman elle a raison de comprendre à quel point il est perdu en fait entre sa décision à lui et celle de ses copains, parce que c'est hyper important.
Ce qui pourrait être pas mal, là, c'est d'essayer d'aller chercher l'émotion qu'il y a derrière, nommer un peu l'émotion. Est-ce que c'est de la honte? Est-ce que c'est de la gêne? Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est du changement aussi, hein? Parce que quand on a passé un petit moment avec les cheveux longs et que on va les couper, c'est pas rien.
J'aurais rêvé d'avoir les cheveux longs. Merci beaucoup, Stéphanie, de nous avoir appelé. Alors, comment aborder le sujet du complexe physique avec son ado quand l'ado focalise sur un détail physique? On l'a dit, hein, il ne faut jamais sous-estimer la situation en lui disant par exemple, oh tu sais, moi à mon âge c'était pire, j'avais des boutons, m'appelait Pizza Face, c'est pas grave. Non, on ne minimise pas ce complexe physique.
Ouais, c'est une erreur fréquente effectivement de minimiser, et du coup on peut pas minimiser, mais on peut aussi dire ah, ça va passer, ça va aller, c'est des questions d'ado, c'est normal. En fait, ça invite pas au dialogue, et du coup ça invite pas aussi à l'apaisement de l'émotion qui est en train d'être vécue. Donc je pense que la première étape, c'est vraiment hyper important de pouvoir écouter et soutenir, et puis après de nommer, donner un cadre et laisser de l'autonomie par la suite, quoi.
Il faut rappeler que notre cerveau perçoit le détail que les autres ne perçoivent pas en général. Il nous perçoit dans notre ensemble, habituellement, et inversement.
Oui.
Et rappelons qu'il est tout à fait normal de complexer et de préférer n'avoir aucun défaut. C'est normal.
C'est complètement normal d'avoir ces questionnements-là. Ça l'est d'autant plus à cette étape-là de la vie où le corps va changer, mais c'est complètement normal d'avoir des préoccupations. Après, ce qui va différencier de la normalité ou non, ça va être l'intensité et la difficulté qu'il va y avoir. Mais si on se pose tous la question, c'est normal d'avoir des difficultés avec ça.
Victoria Jacob.
Nous, dans nos magazines, on fonctionne donc beaucoup avec des témoignages, et je pense que c'est un truc important qu'ils se rendent compte qu'il n'est pas tout seul, en fait, et que les autres se posent ces questions aussi, et sur d'autres parties de leur corps, et sur d'autres aspects. Mais du coup, on publie, nous, beaucoup de témoignages, alors toujours avec un accompagnement d'experts, donc de psy, de médecins, etc. Mais on met beaucoup de paroles d'ados pour qu'ils se rendent compte que, oui, ils ne sont pas tout seuls à ressentir ça.
Vous faites un travail qui est vraiment hyper important, parce qu'effectivement, utiliser des médias, c'est vraiment important. C'était vraiment l'objet de Mathilde quand elle a eu l'idée de ce livre.
Mathilde Debessé, votre Bessé, compagne psychologue.
Ça, exactement. Qui, il faut remettre beaucoup de choses de ce livre, voire même une grande, grande partie. Et grâce aussi à Laura qui l'a merveilleusement illustré.
Laura Stromboni-Cousy.
Exactement. En fait, c'était un peu cette idée de pouvoir donner le plus d'infos possible sur, justement, pour normaliser la plupart de nos comportements.
Loïc Rebu, si ce détail corporel sur lequel on complexe devient une obsession, alors il peut peut-être s'agir d'un trouble dysmorphique obsessionnel. C'est un trouble officiellement inclus en 1980 dans le manuel diagnostic statistique, le fameux DSM. C'est la bible de la psychiatrie américaine. C'est un trouble qui touche près de 2% de la population générale adulte. Et ce sont des chiffres à peu près similaires chez les ados.
Oui, c'est ça. Donc c'est ce qu'on appelait avant la dysmorphophobie. Mm-hmm. Donc c'est le trouble du dysmorphisme corporel. C'est un trouble qui est...
C'est-à-dire qu'on a, pour le dire vite, on se regarde dans le miroir, on a une apparence, entre guillemets, normale. Et on voit quelqu'un qui est laid, qui n'est pas beau, on voit tous les défauts physiques.
Ouais, c'est ça, exactement. Ça va être d'avoir une obsession sur un détail physique de notre corps qui, quand il est soumis au jugement des autres, est imperceptible, voire inexistant. Et le truc, c'est que donc c'est dans la famille des troubles obsessionnels qu'on le plus des TOC. Donc on va avoir une obsession sur cette particularité. Je vous montre mon visage, vous voyez pas à la radio, mais je montre mon visage filmé, parce que c'est une patiente à moi, une jeune patiente à moi qui avait la sensation d'avoir une grosse cicatrice sur le visage qui n'était pas perceptible. Et en fait, ça peut entraîner des comportements assez intenses. Alors en général, ça commence au départ par du camouflage, donc on va maquiller ou mettre les cheveux devant et des choses comme ça. Et puis après, on va petit à petit réduire de plus en plus notre qualité de vie parce qu'on va s'empêcher de sortir, on va se sentir jugé, et il y a plein de choses qui vont se mettre en place.
Et quels sont les comportements qui doivent alerter la famille, les amis? C'est donc cette obsession excessive et durable à propos de ce défaut physique
Oui.
Et surtout, ne pas minimiser.
Oui, complètement. Alors ça, c'est vraiment important de ne pas minimiser, et que si il y a vraiment une intensité émotionnelle et que nous, en tant que parents, on ne voit rien. Là, je pense que c'est vraiment le signe où il faut aller passer le pas d'un psychologue. Et là, pour le coup, former au TCC, parce que c'est un trouble qui peut évoluer de manière assez intense et problématique et qui va avoir tendance en plus à se répandre. Donc,
c'est-à-dire que ce trouble dysmorphique obsessionnel peut se chroniciser, il peut s'aggraver avec le temps, avec un impact possible sur la vie d'adulte.
Un impact considérable même, hein, parce que c'est des risques d'isolement, de dépression, voire même du coup de suicide.
Victoria Jacob.
Alors nous, on reçoit un peu de témoignages, notamment à Phosphore, dans ce sens-là. Mais alors, j'avoue que, pour le coup, on n'a pas trop les clés en tant que journaliste. Enfin, pour moi, on passe un step et on est plus, effectivement, en général, on leur conseille de s'adresser à un psychologue, à un psychothérapeute pour traiter ce genre de sujet. Parce que là, en fait, nous, on veut pas prendre... Enfin, voilà, c'est un sujet trop important pour que nous, en tant que journalistes, même si on est accompagnés par des experts, on le traite en direct, en fait.
Bénédicte nous demande que faire quand l'ado ne veut pas aller chez le psy et qu'il ne va pas bien.
Ça va être aussi d'accepter, parce qu'une psychothérapie, ça se fait aussi avec le consentement et l'envie. Alors, à un certain degré aussi, hein, s'il y a vraiment une urgence à réagir, ben là, il y a des soins spécifiques qui peuvent exister. Il y a les urgences qui sont d'ailleurs très bien pour ce genre de moment. En fait, ça va être aussi d'accepter que le chemin va se faire, ça va être de le proposer régulièrement la situation, pourquoi pas faire le pas soi-même aussi. Nos adolescents, nos enfants, ils apprennent aussi beaucoup par imitation. Et puis, continuer à ouvrir le dialogue, mettre par exemple, pourquoi pas aussi un cadre en se disant, ok, mais si telle chose arrive, là, on pense que ça sera la solution, est-ce que tu es d'accord? Oui, ok, bah, super, et on fixe en fait un compromis ensemble.
Question de Chantal du Kremlin Bicêtre. Et les grands-mères, quelle place avec ses petits-enfants ados? Place essentielle. Hein.
Ouais, c'est une place essentielle, effectivement, quand les liens sont bien faits et quand les transmissions entre les générations se sont bien faites, les grands-parents peuvent aussi recueillir de l'information que les parents n'auront pas, ou avoir plus cette oreille attentive aussi, parce qu'ils passent parfois du temps, ou alors parce que...
Souvent, ça se passe bien, Victoria Jacob, entre grands-parents et petits-enfants ados. Moi, je le vois avec ma mère et ses deux grands ados de 14 et 16 ans. C'est une relation absolument merveilleuse avec leur grand-mère. Comment, c'est des choses qui sont abordées par vos lecteurs.
C'est un des sujets sujet qu'on adore faire, ouais. C'est de mettre un grand-parent avec son ouais. petit enfant et de les faire
ado.
Oui, ado, je veux dire, mais oui, ado, et de les faire discuter. Souvent, il ouais. y a des vraies découvertes. Alors, on peut leur donner des thématiques. Ouais. Souvent, on l'a fait notamment, on l'a fait une fois autour de la cuisine. Alors, c'était marrant, ils cuisinaient ensemble. Et donc, c'était une recette un peu familiale. Mmh. Donc, il y avait toute une histoire. Et
ça, c'est
souvent,
génial de faire ça avec ses grands-parents.
Mais c'était super parce qu'en fait, du coup, l'ado découvrait ouais. des, j'allais dire des secrets de famille, pas des secrets, mmh. mais en tout cas des histoires de famille dont il n'avait pas connaissance. Et là, autour de cette recette, on avait une grand-mère qui racontait mmh. son adolescence à elle, etc. C'est des sujets qu'on adore faire et qui, en général, marchent assez bien parce que c'est assez tendre, c'est assez joli. Et puis, il n'y a pas, pour le grand-parent, cette place de parent, en fait, qui n'est pas toujours très confortable, qui est dans l'éducatif, dans les règles, dans... voilà. Le grand-parent, il a ce rôle un peu plus, j'allais dire, un peu plus sympa, parfois, ça dépend aussi des grands-parents, mais en tout cas, plus complice que celui de parents.
Louis Crevu. Ouais,
quand tout se passe bien, effectivement, c'est vraiment un rôle important, et je pense même que c'est un rôle qui est négligé dans notre société, où ces transmissions intergénérationnelles se font moins, il y a moins de réunions de famille, on vit plus forcément avec nos aînés aussi, et donc c'est important de le garder.
Avec ce rôle de confident, on a tous en tête l'image de la boum entre Sophie Marceau, Vicky et son arrière-grand-mère, Poupette, interprétée par Denise Gray. C'est vrai qu'il y a des moments de complicité entre grands-parents et petits-enfants ados qui peuvent être assez merveilleux. Et nous accueillons Laurence. Bonjour Laurence.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Merci de me recevoir.
Et vous appelez de Dordogne, vous avez bien de la chance d'être en Dordogne.
Oui, là il se vend en plus, on a moins froid.
Quelle est votre question, Laurence?
Alors j'essaie d'être brève. Votre émission est tombée à pic, j'ai eu une altercation avec ma fille adolescente qui aura 14 ans ce mois-ci. Une grosse altercation ce matin. Pour faire bref, bon, avec mon mari, on se sépare, donc je sais que c'est déjà une difficulté émotionnelle pour elle. Mais j'ai toujours été, j'ai toujours été sa confidente. On a toujours été très proches, en lien. Et depuis quelques temps, elle me rejette en bloc ce que je dis quand j'essaie de l'aider ou quand j'essaie de d'être là pour elle, de prendre soin d'elle. Elle me dit qu'elle peut prendre soin d'elle toute seule, qu'elle n'a pas besoin de moi. Bon, je prends ça pour un cri pour l'autonomie, je l'entends. Mais j'ai l'impression aussi qu'elle me rejette en bloc. Alors, alors que son père, elle n'a pas ce discours-là avec lui. Voilà.
Comment vous vivez les choses, Laurence? Comment vous avez l'air très émue. Comment vivez-vous cette situation?
C'était dur ce matin. C'était dur ce matin, je suis émue.
Ce qui est normal.
Voilà. Ma question, c'est que je ne veux pas perdre ce lien parce qu'elle a toujours exprimé ses émotions avec moi. Quand elle est en difficulté, elle vient m'en parler. Elle est entourée, elle a des amis. C'est quelqu'un qui cherche le lien. Elle n'est pas en chute à l'école, donc je surveille, vous savez ce que vous avez dit auparavant, donc je surveille, on va dire, les alertes qui peuvent apparaître. Donc là, j'ai l'impression qu'elle se focalise pas mal sur moi. Elle est tiraillée entre par moment elle a besoin de moi et puis par moment plus que je sois là, plus que je m'occupe d'elle.
Et un témoignage qui Laurence parle à de nombreux parents qui nous écoutent ce matin, Loïc Robu.
Oui, je pense que votre témoignage il est assez courant en fait dans la vie. C'est ce que on parlait tout à l'heure. C'est difficile d'accepter la détresse de nos enfants, surtout qu'à 13 ans en fait on voit encore nos enfants comme des jeunes enfants, ce qui est le cas.
Détresse du parent également.
Détresse du parent également. Ça va être difficile de vivre ça. Et donc vous parliez d'altercation. Souvent, ce qui va se passer, c'est que c'est la colère qui peut monter parce que c'est cette émotion qui nous permet de faire valoir nos droits et de se faire entendre aussi. Peut-être que de lui exprimer ce que vous nous avez exprimé, ça peut aider de nommer aussi ce que vous ressentez avec ça. Vous êtes certainement triste, vous êtes peut-être anxieuse, vous avez peut-être peur.
Je suis triste, oui, je suis triste. J'ai l'impression d'être en échec. J'ai un gros sentiment d'échec, une grosse tristesse, parce que j'ai juste envie d'être là pour elle. Et ma question, c'est ça, je veux vraiment pas perdre ce lien. Elle est très en colère contre moi, donc je la laisse exprimer cette colère. Mais ça me fait mal.
Et ce lien ne sera pas perdu, Loïc Robu.
Pas forcément en plus. Donc là, je pense que l'important, ça va être d'entendre cette colère, peut-être lui faire verbaliser qu'est-ce qu'elle vous reproche, qu'est-ce qu'elle veut, trouver un compromis du coup avec ce qu'elle vous reproche, laisser aussi du coup de l'autonomie, comme vous disiez. Et valider ce que ressent son enfant et reconnaître ce que l'enfant ressent, c'est vraiment des bases qui peuvent vraiment aider aussi dans le lien et dans la relation. Et parfois, dans une relation, il faut laisser un peu d'espace, dans la mesure du possible, parce qu'elle a 13 ans, effectivement, mais laisser un peu d'espace pour trouver de la solution et être à l'écoute, être là.
Victoria Jacob.
J'ai l'impression que c'est un âge où on est en colère et on a besoin de trouver un ennemi. Et qu'en fait, la mère, en fait, on n'a aucun doute qu'elle continuera à nous aimer quoi qu'on fasse. Ouais. Donc en fait, c'est hyper facile. Enfin, facile. Ça semble facile pour un ado de se lâcher en fait sur sa mère et de lui reprocher tout. Je le dis pas du tout en tant que journaliste, mais aussi en tant que mère. Il y a des fois, effectivement, on a l'impression de ne rien faire qui va, que quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, c'est à côté de la plaque, et que donc toute la colère en fait qu'ils peuvent ressentir retombe sur nous. Mais parce qu'effectivement, à mon avis, il y a ce côté, de toute façon, c'est ma mère, elle m'aimera toujours quoi qu'il arrive, donc je peux me lâcher un peu.
Ah, il peut y avoir ça. En plus de ça, la plupart du temps, c'est plutôt la norme que les mamans soient vraiment dans le soin de leurs enfants et tout ça, et les pères un peu plus distants, voire carrément absents.
Et Laurence, ne pas oublier, on l'a évoqué tout à l'heure, les montagnes russes émotionnelles, la tempête hormonale qui traverse votre fille de 14 ans et qui explique notamment également ces comportements colériques. Laurence.
Oui. C'est vrai.
C'est de se dire, voilà, il y a ça, et que c'est pas forcément dirigé contre moi, mais voilà, comme le disait très bien Victoria Jacob, vous êtes entre guillemets un punching ball et vous aimerez toujours votre fille quoi qu'il advienne. Et voilà.
C'est important de lui rappeler à votre fille, voilà, que vous l'aimez, que vous êtes là pour elle, que vous allez lui laisser l'espace dont elle a besoin, et après de vraiment entendre ce qu'elle a à vous reprocher. Parfois, c'est important aussi de venir observer ça, qu'on soit d'accord ou non, et puis après de travailler ensemble pour trouver des solutions.
Merci beaucoup Laurence de nous avoir appelé au 01 45 24 7000. On continue à aborder quelques sujets qui inquiètent les ados. On verra également quelles sont les règles de base pour une meilleure communication. On se retrouve juste après avoir écouté Mickey. Ça pique un peu quand même. 10h51 sur Inter.
Dans ses yeux pistaches, je peux pas m'y faire. Y'a des bots qui font tout à notre place. À partir un coup quand on a rien à faire. Sourire avec les yeux comme tu sais si bien le faire, bâtard. C'est le monde à l'envers. C'est moi qui me demande si je fais pas tout de travers. Mais j'arrive pas à lui plaire. J'essaie de trouver la femme, y'a rien à faire. Je raccroche mon tel, je me parle à moi-même. Mais de fou, c'était ça que je voulais au début. Moi aussi, ouais, putain, trop bien. Être pote, c'est ça. Ça tombe à pic. Mais ça pique un peu quand même. Je cuisine pour une personne depuis au moins 6 semaines. Ça fait tic-tic, un peu quand même. Pip-pip, ça me fout la haine. Mais c'est pic-pic-pic, un peu quand même. Je cuisine pour ma pomme depuis au moins 6 semaines. Ça fait tic-tic, un peu quand même. Pip-pip, ça me fout la haine. Je vis comme un célibataire de 30 balais. Quand ça sonne à ma porte, c'est pour voisin d'en bas. Et même quand c'est la pause, bossez jamais pour moi. Moi je suis là, j'ai des times et des lèvres dans le frigo. Y'en a un peu trop, je pensais que tu viendrais, mais je suis solo. Du coup, je reste dans ta friendzone. Mais c'est pic-pic-pic un peu quand même. Je cuisine pour une personne depuis au moins 6 semaines. Ça fait tic-tic un peu quand même. Pip-pip, ça me fout la haine. Mais c'est pic-pic-pic un peu quand même. Je cuisine pour ma pomme depuis au moins 6 semaines. Ça fait tic-tic. On peut quand même, bébé, ça me fout la haine. Ça fait pic 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 pic, ça fait. Ça fait pic 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 pic, ça fait. Ça fait pic 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 pic, ça fait. Ça fait pic 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 pic, ça fait.
Mickey interprété, ça pique un peu quand même.
Grand bien vous fasse.
Je crois même qu'il y a une belle journée qui se prépare.
Ali Rebéi.
Ah bon ? Eh bien, grand bien lui fasse.
Sur France Inter.
Comment aborder certains sujets qui inquiètent les ados ? C'est notre thème ce matin, en compagnie du psychologue clinicien Loïc Rebu et de la rédactrice en chef de l'hebdo numérique Phosphore. Et nous accueillons Gaëlle. Bonjour Gaëlle.
Bonjour.
D'où appelez-vous, Gaëlle ?
J'appelle de Rueil-Malmaison, dans le 92.
Très bien. Quelle est votre question, Gaëlle ?
Alors moi, ce n'était pas tellement une question, c'était un témoignage. En fait, j'ai trois enfants qui sont maintenant adultes. Et en fait, quand ils étaient ados, je laissais dans les toilettes des petits fascicules, des petits dépliants, des livres, des revues, etc., sur des thèmes qui pouvaient les intéresser et qui n'étaient pas toujours faciles à aborder. Voilà, donc des revues sur la sexualité, des petits dépliants que je trouvais chez mon gynéco, etc. Et en fait, ça leur permettait de s'approprier certains sujets. Et ça pouvait nous ouvrir à des discussions après, derrière, sur la sexualité, sur l'homosexualité, sur plein de choses. Et en fait, ça leur a permis de pouvoir répondre eux-mêmes à leurs questions, ou en tout cas de trouver des réponses qui n'étaient pas toujours faciles à trouver et que je ne pouvais pas forcément toujours leur apporter.
Et Loïc Robu, voilà. Psychologue clinicien, approuve tout ce que vous dites.
Totalement. C'est informer, c'est protéger. Vraiment, c'est une très bonne stratégie, effectivement.
Merci pour votre stratégie, Gaëlle. Victoria Jacob, parfois, il n'est pas simple d'évoquer certains sujets avec ses ados. En revanche, quand on passe par le détour de la fiction, des romans, des séries, des films, ça peut aider.
Oui, et ce qu'on disait tout à l'heure sur le partage aussi, et qui peut déclencher des discussions. Vous parliez tout à l'heure de La Boum, qui est d'une autre génération, mais on a la version moderne de La Boum, c'est LOL, dont le 2, d'ailleurs, j'ai vu, va sortir bientôt.
Avec Sophie Marceau.
Voilà, c'est un condensé de vie adolescente, quand même. Il y a de la sexualité, de l'alcool, de la drogue, des sorties, des engueulades avec les parents, voilà, il y a un peu tout. C'est une super base pour discuter, à mon sens. Il y a aussi pas mal de séries qui marchent bien, notamment sur la sexualité. Il y a la géniale Sex Education qui est formidable, qui est un peu trash pour certains
vous
parents.
Vous regarderiez vous Sex Education avec vos ados ?
Non, mais en tout cas, on discutait
oui,
après.
Oui, on discutait après.
Voilà.
Ouais,
voilà. On regarderait peut-être pas en même temps, voilà. Parce qu'effectivement, il y a des petits moments gênants, peut-être. Ouais. Mais en tout cas, de pouvoir en discuter après, c'est quelque chose sur lequel nous, on travaille beaucoup, notamment à Phosphore. Le magazine Phosphore, les parents peuvent le recevoir en même temps que leurs ados. Et l'idée, c'est vraiment de créer une discussion après sur toutes les thématiques. Il y a des thématiques d'actualité, mais aussi des thématiques d'intimité, de connaissance de soi, etc. Et l'idée pour nous, c'est vraiment d'avoir un point de rencontre pour ces discussions et d'avoir une base de départ.
On consacrera une émission à la meilleure communication possible entre parents et ados, mais est-ce qu'il y a une règle de base, peut-être, Loïc Robu, quand on veut aborder certains sujets, un conseil pour terminer cette émission ?
Ouais, ça peut être poser la question, dire est-ce que tu veux de l'information sur tel sujet, moi j'ai des choses à t'apprendre, j'ai pas la connaissance sur ça, mais tiens, j'ai vu cette série, tu devrais regarder. Ça va être en fait d'ouvrir le plus possible le dialogue, d'attendre quand la personne sera votre enfant sera le plus réceptive pour ça, et vraiment, et avec le témoignage de la dernière personne, c'était vraiment important, et même ce que vous faites dans vos magazines, c'est que informer, c'est vraiment protéger. Pareil, quand on entend tout le tapage que ça a fait pour l'éducation à la vie affective, c'est hyper important de donner de l'information le plus possible et donc, en tant que parent, en fait, de se faire relayer aussi.
Et une chose à éviter, peut-être, c'est la comparaison. À ton âge, je faisais ceci, cela, j'étais comme ça. Au même âge, ton frère faisait ça, ta sœur était comme ci, comme ça. On évite, on est d'accord. Merci beaucoup, Victoria Jacob. On peut s'abonner à l'hebdo numérique Phosphore, excellemment fait. Et également à Julie Okapi.
Sofus, Yam Yam, I Love English.
Merci, Loïc Krobu. Est-ce que c'est normal avec votre compagne psy, Mathilde Bessé, 80 questions psy qui t'inquiète. C'est publié chez Marabout. N'hésitez pas à podcaster et à partager cette émission. Demain, avec le mensuel 60 millions de consommateurs, quels sont les meilleurs et les pires produits pour les bébés de 0 à 3 ans? Ça intéresse déjà Amélie Perrier. Et nous accueillons, c'est un gros bébé, Nagui.
Je sais pas comment le prendre.
Mais si, dans ma bouche, de vous comparer un bébé.
Alors, cette phrase est très gênante aussi. Attention, trop de mots en même temps, pas le bon sens. Non, Ali. Non. Odile Vima et Franck Tillier sont nos invités pour parler de la série. Il était deux fois. Mais ça, c'était quand Ali Rémy faisait encore partie de cette antenne avant qu'il ne soit sorti par la police. Allez, au revoir.
Bonne émission, Nagui.